Salut, bienvenue dans le podcast Célibataire. Aujourd'hui, j'ai invité Louisa du podcast Single Jungle qui s'adresse également aux célibataires. On se connaît depuis environ un an, on avait déjà pris contact l'une avec l'autre, on avait des approches un peu différentes sur nos podcasts et il est temps aujourd'hui de lui proposer de venir parler justement de Single Jungle sur le podcast Célibataire, mais aussi de son expérience personnelle. On a fait ça sur Zoom et donc je vous laisse découvrir l'interview. Salut Louisa, bienvenue sur le podcast Célibataire. Tu es la créatrice du podcast Single Jungle qui est un peu sur le même sujet. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est que tu puisses venir exposer ton angle à toi, pourquoi tu as créé ce podcast. Écoute, je te laisse déjà commencer par ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce podcast Single Jungle? Pourquoi tu l'as créé? C'est quoi ta motivation derrière?
Salut, merci de m'accueillir. Single Jungle, c'est un podcast qui parle de célibat. J'ai choisi le titre parce que, en fait, j'avais pas trop d'idées au départ de titre et donc j'avais un groupe de podcasteuses et on a fait un brainstorming ensemble et en fait c'est celui-là qui correspondait le mieux. Donc je remercie très fort Mélanie Hong qui a trouvé ce titre et donc c'est grâce à elle qu'on a choisi. Et donc Single, parce que ça veut dire célibataire en anglais, jungle pour la jungle, et donc le but c'était d'expliquer ce qu'est la jungle des célibataires aujourd'hui, que ce soit en France ou pourquoi pas dans d'autres pays, notamment avec les applications de rencontres qui sont un vrai sujet en soi, et c'est vrai que c'est la jungle. Voilà pourquoi je l'ai appelé comme ça. Et si je peux préciser, en fait je l'ai créé en janvier 2020, donc juste un petit peu avant toi, il me semble.
Ouais,
c'est un podcast que j'avais en tête déjà depuis plusieurs mois. J'y travaillais depuis, je pense, 2019. J'avais fait plusieurs ateliers de formation de podcast. Et puis, j'avais ce sujet, j'avais ce pitch de ces statistiques, parce que moi, j'ai une passion pour les statistiques. Et donc, je me disais, c'est pas possible, on est plus de 40% de célibataires. Et je ne trouve pas de podcast dédié à ça. Je trouve des épisodes à droite à gauche dans des émissions de radio. Je pense à Modern Love, par exemple, sur France Inter avec Nadia Dame. Il y avait Miroir Miroir qui avait évoqué les applications de rencontre de Jennifer Padjimi. Donc, je voyais des choses, mais pas possible de trouver un podcast dédié aux célibataires et à tout ce qu'ils et elles vivent. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, les gens, ils ne s'intéressent pas à nous, quoi, alors qu'on est super nombreux. Et même, peut-être, parfois, on peut être majoritaire. Donc, comme souvent, quand ça n'existe pas, on n'a qu'à le faire. Donc, je me suis lancée et je l'ai proposé au studio de podcast existant parce que mon projet, c'était ça au départ. Et ils n'ont pas voulu, comme je le dis dans la bande-annonce et dans le premier épisode, j'ai vraiment tapé à toutes les portes. Ils ont dit, c'est intéressant, hein, mais on ne le fera pas parce qu'on a d'autres projets, parce qu'on a un modèle économique qui fait qu'on ne peut pas aller vers tous les sujets, parce que tu n'es pas de notre équipe à la base et qu'on privilégie les projets de notre équipe. Ils avaient toujours des bonnes raisons et je pense que j'avais besoin de ça, d'avoir la confirmation que je l'ai proposé à tout le monde, que personne ne veut, ok, je le lance en indépendante et on verra bien. Et je me disais, ça va intéresser mes potes, les gens qui me suivent un peu sur Instagram, sur les réseaux sociaux, donc allez, peut-être une petite centaine de personnes dans mon milieu, quoi. Et c'est toujours un étonnement et une joie de voir qu'il y a beaucoup plus que 100 personnes qui écoutent. Et là, j'ai la joie de pouvoir annoncer que... nous sommes déjà en avril 2021, donc ça fait un peu plus d'un an que j'ai lancé mon podcast et j'ai cumulé plus de 60 000 écoutes. Donc, merci à toutes les auditrices et auditeurs qui finalement ont trouvé mon sujet intéressant.
Génial, bravo à toi. Et juste pour clarifier, parce que tu parles d'abord ton intention de départ qui était d'apporter ça au podcast existant. Moi, je ne suis pas très familière avec ce milieu. Bon, je fais juste une petite parenthèse qui est peut-être un petit peu plus pro que célibat, etc. Mais comme on est toutes les deux podcasteuses, au final, je trouve que ça vaut le coup d'en parler. Pourquoi ta première pensée, c'était de la porter à des podcasts existants? Et en fait, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que moi, personnellement, c'est mon deuxième podcast. Et en fait, j'ai directement appris à le faire juste moi toute seule et je ne savais même pas qu'il y avait une autre option, tu vois.
Alors, je trouve que c'est super, justement, d'avoir cette option-là, de se dire, on se lance, allez, on a un projet, on se lance tout seul et on trouve les ressources pour le faire et on le fabrique. Et moi, j'étais peut-être plus, en tant qu'auditrice de podcast, parce que j'en écoute beaucoup depuis plus de 5 ans, je me disais, mais en fait, il y a des structures existantes, il y a des studios qui font ça de façon très professionnelle, avec des auteurs, des autrices, des réalisateurs, des gens qui s'occupent du son, des gens qui sont vraiment experts dans leur domaine, au niveau technique. Et moi, mon truc, c'était plutôt les interviews, les recherches, parce que vraiment l'objectif, c'était de dire le célibat, c'est un vrai sujet en soi qui touche plein d'autres sujets, que ce soit l'histoire, la sociologie, le féminisme, les statistiques. Enfin, y a énormément de sujets derrière. Et moi, je suis bonne entre guillemets là-dessus, dans la recherche documentaire, d'aller contacter les gens, parce que j'ai peut-être une facilité à contacter les gens, parce que comme en amour et en rencontre, j'ai aucun problème à aller vers la personne, quitte à me faire jeter. Moi, je me suis pris un nombre de vestes incalculable dans ma vie, c'est pas grave, j'ai aucun problème avec ça. Donc je me suis dit, ok, moi je sais faire des recherches, je sais faire des interviews, parce que à la base j'étais aussi dans la communication pigiste et j'ai fait plein d'interviews dans ma vie, donc je pense avoir cumulé une certaine expérience là-dessus, donc je vais pouvoir faire ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour toute la technique? Donc, c'est vrai que quand on veut se lancer dans un podcast, il faut quand même se dire qu'il va falloir enregistrer, il va falloir faire un montage, un mixage, trouver les bons extraits, mettre une musique. Il y a toute une partie quand même technique et j'avais beau me former là-dessus, j'avais pas une passion pour ça, en fait, la technique. Donc, j'ai su m'entourer pour trouver les bonnes personnes qui pouvaient m'accompagner dans ce projet-là.
Ok, cool. Donc pour revenir du coup plus au sujet du podcast et donc du célibat, toi, qu'est-ce que tu cherches à apporter à tes auditeurs et auditrices au travers du podcast, d'être, qu'est-ce que tu as envie qu'ils ressentent, qu'ils pensent, qu'il se passe dans leur vie suite à l'écoute des épisodes?
Alors, j'ai envie de partager mes découvertes parce que comme je suis passionnée par les statistiques et par la sociologie et par la déconstruction qu'on peut faire de tout ce qu'on nous a appris depuis tout petit et tout petite, à savoir le bonheur passe par le fait de tomber amoureux ou amoureuse, d'être en couple, de fonder une famille. Et ça, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on n'a jamais forcément interrogé ça. Il y a peut-être d'autres façons d'être heureux ou heureuse. Et pourquoi on se prend la tête? Pourquoi on est malheureux quand on se retrouve célibataire, au-delà de la rupture qui peut être douloureuse, bien sûr, mais dans la phase où on a géré la rupture? Et on est dans cette phase de célibat où on n'a pas encore rencontré une nouvelle personne, une nouvelle relation. Et pendant cette phase-là, moi, je sais que j'ai été dans une phase où j'ai été vraiment en quête de rencontrer quelqu'un, vraiment, très activement. Je faisais plusieurs rencontres par semaine et au point parfois de m'y perdre, de faire des rencontres qui n'étaient pas agréables du tout, où j'étais presque dans un problème d'estime de soi parce que j'acceptais les rencontres un peu avec n'importe quel garçon qui acceptait de me rencontrer. Mmh. Dans le côté, il est déjà bien gentil d'accepter de me rencontrer parce que moi, en tant que femme trentenaire, j'avais déjà plus de 35 ans à ce moment-là, et je me disais, et c'est vrai, peut-être qu'ils sont plus attirés par des femmes plus jeunes, peut-être normalement les hommes sont plus attirés par des femmes plus minces ou plus blanches. Enfin, j'avais plein d'idées préconçues comme ça qui sont pas totalement fausses, mais qui partent d'une statistique minime. Et après, je me disais, mais en fait, tous les hommes... ils vont pas forcément tous refuser de sortir avec une femme trentenaire, mais c'est pas un problème en soi. Donc en fait, il a fallu que je fasse ce travail-là de comprendre pourquoi j'allais faire des rencontres pourries et après d'en rire avec mes amis, avec mes proches. Et après, je me suis dit, mais en fait, si je peux aider à mon modeste niveau, si je peux aider d'autres célibataires qui sont en train de passer par cette phase pourrie, une phase peut-être même de souffrance et de rencontre très désagréable, voire pour certaines presque dangereuse, parce que quand on accepte un peu avec n'importe qui, ça peut être dangereux. Moi, si je peux aider une célibataire, ne serait-ce qu'une, à éviter ces écueils-là, j'aurais réussi. Donc, c'est aussi l'objectif du podcast.
Ok. Tu dis une, est-ce que ton podcast, il s'adresse à des femmes
C'est une très bonne question. Je pense que ma cible principale, c'était les femmes. Mais bien sûr, je suis je suis très contente que d'autres personnes écoutent et je fais attention à dire il et elle et à ce que des hommes aussi puissent bien sûr se sentir bienvenus. De même pour les LGBT, j'en ai interviewé un et j'aimerais en avoir d'autres, des hommes homosexuels et puis des femmes lesbiennes. Donc je vais essayer d'ouvrir au maximum pour avoir tout le spectre LGBTQIA+. Pour autant, il faut être bien consciente que la pression du célibat aujourd'hui, elle est surtout sur les femmes, et en particulier sur les femmes hétéros. Parce que j'ai des femmes lesbiennes qui me confirment qu'elles sont moins emmerdées par le cercle familial, parental ou amical sur le fait qu'elles rencontrent quelqu'un ou pas. On les emmerde beaucoup moins. Alors qu'une femme hétéro, qui plus est trentenaire, et aussi les vingtenaires, en particulier dans certaines régions de France, où y a certains modèles où à 25 ans, quand on habite par exemple en Lozère, à 25 ans, si on n'est pas en couple et presque fiancé, c'est presque mal vu. J'ai eu des messages comme ça en ce sens, un peu comme toi, quand je reçois des messages, vraiment je me dis mais c'est ça ma récompense. C'est finalement ça a pu aider quelques personnes. Et oui, il y a des gens qui m'ont dit heureusement qu'il y a ce genre d'initiative, de podcast, ça nous permet de voir qu'on n'est pas toute seule et que c'est OK d'être célibataire, qu'on le vive bien, qu'on ne le vive pas bien. Il faut juste qu'on essaye de nous laisser le plus tranquille possible parce que ce n'est pas en nous mettant la pression qu'on y arrivera, qu'on arrivera plus facilement à trouver quelqu'un.
Et il me semble me rappeler que quand on avait échangé à peu près l'an dernier, c'est-à-dire il y a un peu moins d'un an, il me semble que c'est l'été, il me semble que tu avais un angle très de défense, on va dire, des femmes de couleur, des femmes grosses, de LGBT. Enfin, tu vois, il me semblait que tu étais un peu positionnée comme ça. Est-ce que ça a évolué ? C'est comment ton point de vue aujourd'hui ?
Alors, en fait, moi, je suis très concernée par le sujet de qui parle et qui parle de quoi, et que les personnes concernées puissent s'exprimer et dire d'où on parle. C'est ce que font, commencent à faire certains journalistes quand ils font un reportage, plutôt dans les podcasts, ils le feront jamais à la télé, mais de dire, voilà, par exemple, il y en a qui vont dire, je suis un homme blanc, hétéro, issu de la bourgeoisie, et je vais vous parler de tel sujet. Parce que ça les place dans un contexte. Et donc, moi, je précisais dans certains épisodes, pas tous, que je suis une femme... là aujourd'hui j'ai 41 ans, donc je précisais l'âge. Je suis une femme racisée, donc d'origine algérienne, par mes deux parents, et je suis une femme grosse ou ronde, ça dépend de l'appellation qu'on veut. Et pourquoi c'est important de préciser tout ça ? Parce que je me disais, lorsqu'un auditeur ou une auditrice va écouter ce podcast, qu'il puisse se dire, voilà la personne qui parle et qui parle de son expérience, son point de vue, en fonction de ce qu'elle a vécu par rapport à tout ça. Parce que si j'avais été mince, si j'avais été blanche, blonde, si j'avais été, sans aucune origine mixte dans mon arbre généalogique, sans doute que j'aurais eu un vécu très différent et sans doute que j'aurais pas fait les mêmes rencontres. Après, c'est vrai que c'est un aspect important. Donc, j'ai interviewé donc des personnes racisées dans mon podcast. Il y en a eu plusieurs. Je ne vais pas interviewer que ça parce que il y a des podcasts très bien pour ça. Il y a Kif Taras, Le Chip, il y en a plusieurs. Mais c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir une diversité à la fois de genre, d'orientation sexuelle et aussi d'être le plus possible un peu dans la diversité culturelle qui existe en France. Parce que je veux montrer qu'on est très différents. Dans les célibataires, il y a un peu de tout. Et j'ai parfois un peu de mal quand je vois les reportages qui existent sur le célibat à la télé. Ça m'embête un peu de voir souvent les mêmes visages, souvent la fille... comme si le journaliste il avait envie de dire « Et pourtant, Caroline est blonde, mince, mais elle ne trouve pas chaussure à son pied. Que s'est-il passé dans son parcours ?» Ça m'énerve. ça m'énerve. Je me dis mais c'est, d'abord, c'est pas le sujet. Et pour moi, j'ai un sujet de représentation. Donc, j'étais très, très fière d'avoir l'opportunité de passer à la télé, de faire le 20h de TF1 pour parler du célibat. À l'époque, c'était au mois de mai, en plein confinement. Et donc, les journalistes se disaient mais que vont devenir les célibataires pendant cette période ? Et de savoir que moi, j'allais avoir la chance de représenter une partie des célibataires, moi, femme ronde racisée, je me suis dit, ça va changer un peu de la Caroline blonde, blanche, j'ai rien contre les Carolines, qu'on montre un petit peu une diversité, donc c'était important pour moi de le préciser.
Et est-ce que, parce que tu disais, si j'avais été blonde, blanche, etc., j'aurais sûrement eu une expérience différente. Est-ce que tu vois des points vraiment de différence, par exemple, entre ces deux profils? Si on prend, enfin, moi, typiquement, bah, je suis blanche, j'ai 29 ans. Donc déjà, on n'a pas le même profil. Et en gros, moi, je pense que tous les célibataires potentiellement, il y en a beaucoup qui souffrent du célibat, quel que soit finalement leur profil. Et donc finalement, qu'on soit beau, qu'on soit pas beau, qu'on soit mince, qu'on soit gros, qu'on soit blanc ou racisé, on en souffre. Donc c'est vrai que moi, je me concentre plus sur la souffrance en soi. Mais est-ce que tu penses que… Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un célibataire… est-ce qu'on dit cisgenre pour… genre, est-ce que moi, je suis cisgenre ou…
si tu considères que le sexe qu'on t'a assigné à la naissance est le sexe avec lequel tu es à l'aise, tu es cisgenre. Donc, tu es une femme et tu es née petite fille et c'est OK, ça te va.
Ouais. Ah oui, mais c'est genre, ça. Je croyais qu'il y avait aussi la notion d'être blanc, mais c'est parce que souvent, on dit homme, blanc, voilà. Cisgenre ou… Enfin, bon.
Hétéro, etc. Alors, ouais. Moi, dans mon cas, je pense que les célibataires ont tous des points communs, effectivement, dans la façon dont ils vivent leur célibat, dans les rencontres. Par contre, la différence, c'est que nous, on va peut-être, nous, personnes racisées, et nous, personnes rondes, et quand on a les deux, on est dans l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on va avoir les deux problèmes, entre guillemets, enfin, les deux confrontations, c'est qu'on va peut-être, en tout cas, moi, ça a été mon cas, et je connais des personnes à qui c'est arrivé, on va avoir des remarques sur les applications de rencontre, et pas seulement, ça peut être aussi à l'époque en soirée ou quand on rencontrait des gens, on va avoir des remarques de type soit raciste, fétichiste ou grossophobe. Donc raciste, ça va être des gens simplement qui vont nous dire qu'est-ce que tu fais sur cette application, tu trouveras jamais ça l'arabe. Par exemple, bon, ça, moi, je comprends même pas pourquoi les gens viennent me parler si c'est pour m'insulter, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'on rappelle que sur les applications, il faut matcher, donc il faut liker le profil. Bah, si tu es raciste, pourquoi tu likes des profils de personnes qui ne te conviennent pas? Donc là, on est sur des gens qui sont vraiment agressifs et qui sont là juste pour nous emmerder. Fétichiste, c'est une branche du racisme, mais c'est un peu différent. C'est des gens qui vont choisir uniquement des personnes d'une certaine couleur parce qu'ils sont attirés que par ça. Parce qu'ils sont dans un délire fétichiste, parfois colonialiste, hein, c'est le cas pour Yann Wax, qui est attiré uniquement par les femmes jeunes et asiatiques, parce qu'il a un délire sur les colonies, l'Indochine, et il est dans son trip. Et inversement, du coup, moi, je peux avoir des gens qui vont venir me parler pour me dire « Ah, mais moi, j'ai toujours tripé sur les beurettes ». On va rappeler que beurette n'est pas un terme… approprié. On peut dire une femme d'origine maghrébine, on peut dire une femme arabe, mais beurette, malheureusement, c'est un terme qui est utilisé pour les films porno. Donc, on va avoir des gens qui vont venir nous chercher juste pour ça. Moi, j'ai le souvenir de quelqu'un qui était juif et qui me disait « Je souhaite rencontrer une personne maghrébine et musulmane, si possible, de façon à venger le peuple juif qui souffre en Israël. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?» Donc, tu vois, tu vas avoir ce type de propos qui sont inadmissibles sur les applis, ce que toi, tu ne vas peut-être pas vivre. Et après, j'ajoute la partie grossophobie, où effectivement, il y a des gens qui ne supportent pas les femmes rondes ou les hommes ronds et qui vont soit ne pas du tout leur parler, ne pas accepter, ok, ou il y a ceux aussi qui vont venir nous parler juste pour nous insulter. Donc ça, c'est une partie du vécu, pour moi, qui est important de le signaler, parce que je pense à des personnes qui seraient plus sensibles, qui vivraient mal leur célibat et qui se lanceraient tout doucement sur les applis. Si ces personnes ne sont pas prévenues que de la violence verbale est possible à tout moment, mais dès lors qu'elles ont une particularité qui est liée à leurs origines ou à leur physique, pour moi, une femme avertie en vaut deux. C'est pareil pour les hommes. Donc, il vaut mieux être prévenu, notamment grâce à ton podcast et au mien. Et une fois que les gens savent, OK, on va sur les applis et on arrive avec un gilet pare-balles, quoi.
Merci beaucoup pour ces informations. C'est vrai que c'est clair que quand tu n'es pas concerné, tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas que tu pourrais recevoir ce genre de commentaires. Et je pense que ça vient... pour moi, ça vient vraiment ajouter quelque chose de super négatif. Déjà, quand on n'a pas tout ça, on peut souffrir d'être célibataire et pas kiffer les applis de rencontre. Alors, quand en plus tu rajoutes ça, ça rajoute vraiment une grosse couche. Et Alors moi, peut-être ce que je peux dire sur le sujet plus des, on va dire, du type de relation qu'on peut avoir au travers des applis de rencontre. Moi, de façon générale, donc effectivement, moi, je ne reçois pas ce genre de commentaires. Par contre, je trouve qu'il y a quand même une tendance générale à l'irrespect, mais sous d'autres formes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de te dire « sale arabe » ou « grosse » pour être irrespectueux. Il y a même des, je trouve qu'il y a beaucoup de comportements de gens qui mentent. Et pour moi, ça commence même au fait de tricher sur ses photos. En fait, moi, je suis très intègre et je suis très dans l'authenticité et l'honnêteté. Et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai rencontré quelqu'un dont… quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit, j'arrive pas à le reconnaître parce que les photos ne montraient qu'un seul angle, qu'une seule facette de la personne, et du coup c'est pas la personne en entier. Et du coup moi je me sens trahie en fait dans ces moments-là. Donc c'est, je trouve qu'il y a de ça. J'ai bon, plein de personnes qui me disent bon, en gros j'ai fréquenté quelqu'un, puis finalement la personne m'a un peu lâché du jour au lendemain parce que en fait elle est retournée avec son mec, mais ou alors il y a les gens qui ghostent. Enfin, en fait je trouve qu'il y a beaucoup de comportements qui sont pas, pour moi, qui sont pas très respectueux de l'autre et de l'humain, et donc voilà. Donc je trouve que même sans la question raciale ou tout ça, je trouve qu'il y a déjà aussi juste des cons, quoi.
Non, c'est sûr, il y a des comportements qui sont pas acceptables, et malheureusement, il y en a qui te disent bah, c'est le jeu des applis, les gens qui sont en face de nous, ils sont pas vraiment en face de nous, on a l'impression que c'est presque pas vraiment des êtres humains derrière. Je dis, mais traite les gens comme tu aimerais être traité toi, donc avec un minimum de respect, d'empathie, et puis t'apprends à connaître l'autre. Donc qu'est-ce que ça veut dire si tu commences dès le début par des mensonges, effectivement par rapport aux photos, ça c'est un grand classique, mais aussi par rapport à la vérité de ta recherche. Moi je pose la question à chaque fois, c'est ma recommandation, demander aux gens, il faut leur dire, il faut savoir vers où ils vont. Et s'ils ne savent pas, qu'ils vous le disent. Donc voilà, quel type de rencontre recherches-tu sur cette appli? Est-ce que tu es plutôt dans une phase un peu légère en ce moment? Est-ce que tu es ouvert un petit peu à tout? Pourquoi pas? Est-ce que tu aimerais vraiment te poser? Moi je précise, c'est une technique, je leur dis à chaque fois, virgule, il n'y a pas de mauvaise réponse. Bien évidemment qu'il y a des mauvaises réponses. On est bien d'accord. Il y a des mauvaises réponses pour moi, mais qui conviendraient à d'autres. Donc moi, la mauvaise réponse, c'est le mec qui en fait est un queutard et qui dit « moi, je suis là que pour m'éclater, je suis pas prêt à une relation sérieuse parce que je sors tout juste d'une relation. » Et voilà, je creuse. Tu sors tout juste, c'est-à-dire bah, ça fait 3 ans. D'accord, alors tu sors pas tout juste en fait. Donc arrête avec cet argument de je suis pas prêt à me poser, et puis j'aime pas les relations sérieuses, j'ai l'impression qu'on s'ennuie. Que des poncifs comme ça, alors qu'il faudrait juste qu'ils assument. J'ai envie de m'amuser et ce serait ok. Et j'ai posé la question au garçon qui ne disait pas la vérité. Voilà. Maintenant que c'est mort, moi j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que tu dis pas les choses. Bah parce que le ratio de réussite de rencontre entre je dis la vérité, je veux juste baiser, et je dis bah non, ça dépend, on verra selon les rencontres. Si je dis je veux baiser, souvent la rencontre va s'arrêter tout de suite, enfin la conversation avec la personne va s'arrêter. Or, moi j'ai besoin d'avoir au moins une rencontre au bout d'un moment. Donc je dis oui, mais à force de dire les choses tout de suite, tu vas finir, à force de faire un tri, tu vas finir par tomber aussi sur des personnes qui cherchent la même chose que toi. Oui, ça va demander un peu plus de temps. Oui, ça demande plus d'honnêteté, mais c'est beaucoup plus carré. Et tu te sentiras mieux, et les personnes en face aussi. Et il y a des filles aussi qui sont là juste pour s'amuser, donc il n'y a pas de problème. Et elle me dit, non, mais moi, j'ai besoin d'un ratio. Mais c'est quoi ces histoires de ratio? Oui, bah, moi, j'ai tant de rencontres par semaine que je souhaite faire. Et donc, ma méthode, elle fonctionne mieux que la tienne. Ok, j'aurais essayé, je ne suis pas là pour t'éduquer. Voilà, on essaye de transmettre les bons messages, mais c'est vrai que les applications, on en parle très bien, Judy Duportail, dans L'amour sous algorithme, les applications nous ont rendus un petit peu, pas agressifs, mais un petit peu parfois désagréables, parfois un peu inhumain. On manque d'empathie avec les gens, on les traite un petit peu comme si c'était juste des numéros, des profils, vu qu'on swipe à droite, à gauche, comme si ce n'était pas des vraies personnes derrière. Donc, malheureusement, les applis n'ont pas aidé. Mais à nous aussi, parfois, de retrouver notre côté humain et de dire non, mais en fait, ça ne me convient pas. Peut-être il faut que je fasse une pause des applis et que je revienne et que je fasse un meilleur tri par la suite.
Ouais. Moi, personnellement, je trouve que, de toute façon, nos comportements reflètent qui on est à l'intérieur. Le gars, je comprends son argument. Tu comprends pourquoi il agit comme ça. Mais moi, je trouve que le problème, c'est que le monde est régi par cette mentalité. C'est cette mentalité de « je préfère mentir aux autres êtres humains pour me servir moi plutôt qu'être honnête et prendre la responsabilité et que ça prenne plus de temps, etc. » Moi, bref, je pense que je ne veux pas forcément m'étaler peut-être trop sur ce sujet, mais parce que bon, je ne suis sûrement pas toute blanche non plus et peut-être que parfois j'ai fait des trucs sans même me rendre compte que peut-être ça pouvait blesser ou des trucs comme ça. Mais de façon générale, moi, je n'aime pas ce manque d'authenticité, ce manque de se dire les choses. Voilà. Et donc, voilà, la dernière fois, après mon dernier date, j'ai fait « bon, vas-y, je supprime tout
». Moi, t'en as marre, ça y est.
Après, c'est pas la première fois que je supprime et que je les remets. Tu sais, parfois, tu as des moments de faiblesse et finalement… Mais après, ça, c'est aussi un truc à étudier. Tu vois, c'est ce comportement de quand tu te sens seule d'aller sur Tinder, tu vois. Ouais. Mais en fait, ça cache autre chose derrière. En fait, ton problème, c'est pas que tu as besoin d'aller sur Tinder. Ton problème, c'est que là, tu te sens seule et il y a d'autres moyens de moins se sentir seule. Donc, la dernière fois, j'ai tout supprimé. J'ai dit, bon, je vais mettre Bumble BFF. Donc, c'est que des amitiés. Okay. Forcément, je tombe quasiment que sur des filles parce que je pense que les gars, ils mettent plus le mode date. Mais je me suis dit, je rentre dans une phase où je crois que j'ai envie de rencontrer les gens, juste rencontrer les gens, en fait, sans arrière-pensée et faire, créer de nouvelles amitiés, créer du lien. Et forcément, je pense que si tu crées du lien avec des gens qui aiment bien les mêmes centres d'intérêt, qui ont un peu les mêmes valeurs, il se peut qu'à un moment, tu tombes sur quelqu'un qui te plaît au milieu. Et bon. Donc moi, en tout cas, là, je suis dans cette phase-là. Ça changera peut-être. Mais... c'est quoi, toi, ton histoire du célibat? Tu nous as dit que tu avais 41 ans. Avant qu'on démarre le podcast, tu m'as raconté ce qui s'était passé récemment. Est-ce que tu peux nous faire un peu l'historique?
Oui, justement, en fait, c'est une question qui a été posée par les gentilshommes il n'y a pas longtemps sur un de leurs posts Instagram. Donc, les gentilshommes, c'est un podcast aussi sur les relations humaines, les relations hommes-femmes, etc. Et ils ont demandé depuis quand vous êtes célibataire? Est-ce que vous arrivez à se situer? Et comment vous l'expliquez? Et en fait, je leur ai dit, mais il va falloir préciser, les gars. Depuis quand je suis célibataire, vous comptez à partir de quand? Est-ce qu'on compte à partir de la dernière fois où j'ai ressenti des sentiments pour quelqu'un et que ces sentiments ont été partagés et qu'on a essayé quelque chose et ça a marché plus ou moins ou pas? Si je compte ça, la dernière fois que j'ai eu des sentiments, c'était il y a un an. Bon. Si on compte la dernière fois que j'ai eu une relation sexuelle, parce que il y en a qui pensent que célibataire, ça veut dire être dans l'abstinence, ce qui peut être un choix, hein, ou pas, moi, si on compte le dernier rapport sexuel, là, c'était il y a quelques heures. Donc, je ne peux pas compter ça. Ensuite, si je compte quelle est depuis quand j'ai eu une phase de célibat longue avec peut-être la dernière vraie grande relation amoureuse que j'ai eue, qui aurait duré plus que quelques mois, c'était il y a 5 ans. Et si je compte encore la fois où j'ai tenté d'avoir une relation avec quelqu'un et les sentiments ne sont pas venus, alors que ça aurait pu, mais les sentiments ne sont pas venus, c'était en 2018, donc il y a 3 ans. Donc tu vois, il y a plein d'échelles différentes. Et donc moi, mon histoire du célibat, elle est assez simple et tellement courante. J'ai eu tellement de messages de filles qui m'ont dit « mais on a trop la même histoire !» Et c'est tellement courant. Alors, en couple pendant 13 ans, alors pour certains ça varie, c'est 5 ans, 8 ans, 9 ans, souvent une relation longue qui a été vraiment formatrice pour ces personnes-là, souvent entre la vingtaine et la trentaine. parce qu'on s'est rencontrés à la fac, on s'est rencontrés quand on, voilà, on commençait notre premier job ou ce que tu veux. Donc moi, c'est totalement ça. J'ai rencontré donc mon ex à la fac. C'était mon premier vrai compagnon, celui à qui j'ai donné ma virginité. Et puis, on a vécu ensemble pendant 13 ans cette relation. Parfois en vivant ensemble, parfois j'étais un peu en coloc. Mais on a eu cette expérience de couple qui vit ensemble quand même. Et puis, cette relation s'est arrêtée au bout de 13 ans. Et là, j'ai découvert, tiens, qu'est-ce que c'est que le célibat ? Je ne sais plus comment on fait, ça fait 13 ans, je ne sais plus. Faut aller sur des applis maintenant. Mais voilà, je suis arrivée dans ce monde-là totalement différent de ce que j'avais connu auparavant. Et j'ai découvert, comme beaucoup de femmes, les hommes aussi, mais surtout les femmes, que quand on arrive à la trentaine bien tassée, dont 35, et qu'on regarde autour de soi, quand on va à des soirées, on se retrouve souvent la seule célibataire parce qu'il n'y a que des couples. On va à des mariages, il n'y a que des couples. On va à des anniversaires d'enfants, il n'y a que des couples et des familles. Et même au micro, c'est arrivé que j'ai une copine qui me dit « Demande au DJ, le DJ, je pense, c'est le seul célibataire de la soirée. » Ok, très très bien. Mais c'est pas grave, mais c'est sociologique. À la trentaine, on va se retrouver célibataire et un peu être les seuls célibataires de notre groupe d'amis. Mais par contre, on va connaître plein d'autres filles célibataires qui, elles aussi, vivent un peu la même chose que nous. Mais les mecs célibataires, on les trouve beaucoup moins, où ils sont, eux, dans une phase à papillonner à fond, donc pas du tout envie de se poser. Et moi, pendant ce début de célibat post-relation longue, ok, j'ai papillonné un petit peu, mais j'avais très vite envie de me recaser, comme on dit. J'avais envie de retrouver le couple, parce que moi, le couple, ça me convenait. J'avais eu quasiment toute ma vie d'adulte en couple, et ça me manquait, en fait. M'occuper de quelqu'un, cuisiner pour quelqu'un, faire des projets à deux, enfin, tout ce qui peut se passer dans un couple. Et donc, je me suis mise dans cette dynamique très forte de rencontrer autant que possible via les applis, parce que je n'avais pas d'autres possibilités. J'avais essayé les rencontres dans des bars avec des copines. J'ai expérimenté des moments assez douloureux de grossophobie, où quand je disais bonsoir à un homme alors qu'on faisait la queue tous les deux pour prendre un verre au bar, la personne me répondait pas ou me répondait avec beaucoup de mépris. Je me suis dit, mais c'est un peu violent, en fait. J'ai beau me sentir bien dans ma peau, si je me prends une veste juste quand je dis bonsoir, ça va être un peu compliqué. D'autant que quand je suis rejoint par mes copines qui viennent au bar, elles ont droit à un bonsoir, par contre, parce qu'elles sont minces. Donc je me suis dit, ok, ça c'est les rencontres dans les soirées, je trouverai pas, parce que j'aurais plus de chances de tomber sur des gens grossophobes et ou racistes. Donc ça va être beaucoup plus simple pour moi sur les applis, où je vais pouvoir, outre bien sûr montrer mes photos et indiquer que je suis ronde, moi j'indique même mon poids, donc j'ai aucun problème avec ça, je vais pouvoir préciser, voilà, je suis de telle origine, je pratique telle religion, et donc ça va faire le tri. Si vous avez un problème avec ça, ne venez pas m'adresser la parole, ça sera plus simple. Et donc, voilà, moi j'étais dans cette phase de rencontre et j'ai fait des belles rencontres qui parfois ont mené à des relations sexuelles, parfois suivies, mais j'ai pas eu de belles histoires, des histoires qui auraient pu être bien, mais on tombe aussi sur des gens qui ont un vrai travail de psychologique à faire, hein, de type « tu lis des livres ». Moi, je lis pas de livres, je vais avoir un complexe. Les femmes intelligentes, elles m'intimident. Si, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Donc, c'est vrai que j'ai eu toute cette phase pendant plusieurs années où j'allais vers des rencontres peut-être un peu trop facilement, comme je disais au départ, parce que je voulais absolument me remettre en couple. C'était vraiment un objectif de vie pour moi. Et au point parfois de faire des rencontres très négatives et douloureuses et j'irais pas jusqu'à dire dangereuse, mais où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, barre-toi, parce que vraiment, la personne te traite pas bien, quoi, donc il faut partir. Et après, j'ai eu quelques histoires, mais qui ont duré quelques semaines ou quelques mois, jusqu'à la rencontre, donc il y a un an, où là, je me suis dit, oh putain, c'est possible, on peut rencontrer quelqu'un sur une appli et bien s'entendre au premier rendez-vous, mais comme si on s'était toujours connus, et finir le rendez-vous, tu sais, où on s'embrasse dans la rue comme des ados contre un abribus, et alors qu'on a 40 piges, quoi. Et tu te dis, mais voilà, on ne veut pas rentrer. On veut rester dans les rues de Paris à s'embrasser, à se tenir la main, à se serrer l'un contre l'autre. Et c'est tellement magique. Et là, je me dis, c'est super un rendez-vous qui se passe comme ça où je n'ai pas cette attente de merde après un premier rendez-vous. Tu te dis, est-ce qu'il y aura un deuxième rendez-vous? Pourquoi il ne m'écrit pas? Est-ce que c'est à moi de lui écrire? Est-ce qu'il faut que j'attende? Faut attendre 2 jours, non? Faut attendre combien de temps? Avec des règles de merde. Et moi, j'ai toujours refusé ça. Ou moi, dès que je rentrais, je me disais, j'ai passé une bonne soirée. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on se revoie? Je voulais qu'on soit fixé. J'en ai marre qu'on donne des règles aux gens. Faut attendre 48 heures. Faut attendre que lui, il te contacte. Parce que si tu le contactes toi, tu lui enlèves le plaisir de la séduction, de la chasse. On arrête avec ces conseils de masculinistes. Non. Vous avez envie d'envoyer un message parce que vous avez passé un bon moment. Eh ben, vous le faites. Et si ça lui fait peur. Ou si, ça pose problème, c'est que c'est pas le bon. Et puis c'est tout. Et là, avec lui, ça s'était tellement bien passé. J'étais trop contente. Je me suis dit, oh, putain, 5 ans d'attente, 5 ans de célibat pour finalement peut-être tomber sur le bon. Et c'était super. Et il a tout gâché. Il a tout gâché. Bon, c'est pas grave, mais ça a duré donc à peu près 3 mois. J'en parle dans l'épisode 9 où en fait on n'avait pas la même conception du couple, comme quoi c'est important d'en parler peut-être assez tôt. Lui, sa conception du couple, c'est que forcément il faut qu'on dorme ensemble tout de suite. Non, en fait non. Le consentement, c'est important à tout niveau, et donc tu peux pas me forcer à dormir avec toi alors que moi je suis pas encore prête à le faire. Autant coucher, faire l'amour, c'est quelque chose que je peux faire dans un délai assez rapide quand je me sens en confiance. Mais dormir, et je suis pas la seule, hein, dormir avec quelqu'un, c'est quelque chose de plus intime. Et je ne le fais pas rapidement. J'ai besoin de me sentir en confiance et j'ai besoin qu'on me laisse du temps. Et si on me laisse pas du temps, si on est en mode chantage, c'est pas bon. Donc voilà, donc j'ai eu cette histoire-là qui a duré quelques mois. Et ensuite... Et bien ensuite est arrivé le confinement et donc là plus de relations pendant longtemps pour des raisons sanitaires évidentes. Et j'ai repris le dating en juin quand on a été libéré là, mai-juin. Et j'ai fait quelques dates sympas, mais parfois ça donnait rien de spécial. Parfois je suis retombée sur la lâcheté, le ghosting dont on parlait, ou presque, ou le premier rendez-vous se passe bien, me semble-t-il. C'est lui qui me dit qu'on va se revoir. Bon, et à 2 heures du rendez-vous, j'ai pas de temps à consacrer à une relation. Salut. Et il me bloque. De quoi ça s'agit? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et là, heureusement que le travail avec ma psy a payé, je me suis dit, tu vois, il y a quelques années, je me serais dit, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est mon comportement, c'est ma tenue, j'étais pas assez jolie. Je me serais tellement pris la tête. Alors que non, le problème ne vient pas de moi. Le problème vient de lui. Il l'a dit lui-même. Il n'est pas prêt à faire des rencontres. Et finalement, pourquoi t'as accepté ce premier rendez-vous? Peut-être juste pour reprendre les rencontres tout doucement, s'entraîner, et puis peut-être aussi que je ne lui ai pas plu, tout simplement, et qu'il n'a pas l'honnêteté de le dire. Il y a plein de possibilités, donc là, voilà, pareil, il faut passer à autre chose. Et donc oui, le dernier événement qui m'est arrivé en termes de relation, j'ai rencontré en septembre dernier un homme sur Tinder qui avait une précision dans son profil très particulière, c'était « je suis un homme en couple libre ». Je suis mariée, mais je suis en couple libre. Donc, j'attends de faire des rencontres, pas des rencontres que pour le cul. Lui, il aime bien vraiment la partie « on discute, on fait des sorties », la partie câlin, en fait. Mais pas juste « sex friend » où on se voit juste pour baiser. C'était pas ça son objectif. Je me dis « mais... » quel est l'intérêt de rencontrer quelqu'un en couple libre? Et en même temps, il était franc. Et son profil me plaisait bien. Et on a commencé à discuter. On a vu qu'on avait plein de points communs, notamment culturels, que ce soit Kaamelott, par exemple. Moi, je suis fan de Kaamelott. Et donc, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup de le rencontrer. Et puis en septembre, on avait à nouveau le droit de sortir, d'aller au resto, de faire des sorties. Je me suis dit, là, je vais le rencontrer, on verra bien. Et puis, qui sait, peut-être que je peux me plaire dans une relation avec quelqu'un qui est en couple libre, et peut-être qu'on pourra même évoquer le polyamour qui m'intéressait beaucoup. Et donc, là aussi, un premier rendez-vous, mais premier rendez-vous avec un masque. Là, ça a été une expérience aussi. Parce que j'avais eu ça aussi avec les masques au mois de juin. Mais là, le côté, on a le masque. Mais pour dire au revoir, pour les autres dates, j'avais dit au revoir normalement. J'avais pas eu besoin d'embrasser vu que c'était juste un premier rendez-vous qui se passait tout à fait sobrement. Mais là, le rendez-vous, ça a été un verre, puis un resto, puis on n'a pas envie de se quitter, et puis on se bouffait des yeux. Tu le sens quand on se bouffe des yeux autour d'une table et qu'on a juste envie de se sauter dessus, ça se sent. Et donc, je suis arrivée à la phase, comment je vais lui faire comprendre que je veux qu'on s'embrasse. Et même si je m'étais dit dans ma tête, non, il faut qu'on attende 15 jours parce qu'il faut que je sois sûre qu'il n'ait pas de symptômes, il faut qu'on ait le temps de faire des tests PCR bidule. Et c'est vrai que dans l'idéal, il vaut mieux faire ça. Mais là, je lui avais quand même posé un milliard de questions sur son passé médical récent. Est-ce que tu as eu des symptômes? Est-ce que tes collègues ont été malades? Est-ce que ta femme a été malade? Enfin, je posais plein de questions et je me sentais un peu rassurée. Bon, voilà, j'ai fait mon petit questionnaire. Et puis donc, à la fin du rendez-vous, je lui ai dit, est-ce que tu peux enlever ton masque, s'il te plaît? C'est tellement pas romantique, mais en même temps, consentement, quoi. Donc, il l'a enlevé et je lui ai dit, j'ai envie de t'embrasser. Je peux t'embrasser? Parce que là aussi, je me suis déjà pris des vestes où j'avais l'impression que l'autre aussi avait envie qu'on s'embrasse. Et en fait, non. Et c'est tellement un vent violent que maintenant, je préfère le dire. Et ça peut être excitant à entendre aussi, genre, j'ai envie de t'embrasser ou j'en meurs d'envie, et voilà. Et donc, on s'est embrassés et c'était super et on ne voulait pas se quitter. On a passé un petit moment à s'embrasser sous des portes cochères près de chez lui. Et c'est là que notre histoire a commencé. Je dis notre histoire parce que depuis septembre, on se voit toujours. Et on a eu une phase très active où, en septembre, octobre, jusqu'à la fermeture des ciné, des machins, on a vécu ce que moi j'appelle une relation qui ressemble beaucoup à une relation de couple, puisqu'on se voyait 3 fois par semaine. Il est arrivé qu'il passe un week-end entier chez moi. Donc les restos, les brunchs, les balades, le cinéma, les spectacles, regarder des films ensemble, sous la couette, mettre pause parce qu'on a envie de faire des câlins. Voilà, j'en parlais à mes amis, ils me disaient, mais vous vous embrassez dans la rue et vous vous tenez la main dans la rue et vous faites tout ça là, mais vous êtes en couple en fait. Et là, on arrive au sujet. Je ne sais pas nommer cette relation. Pour moi, c'était une relation intime. Importante. Le polyamour ne l'intéressait pas, donc on n'est pas allé vers ça. Et depuis, on a réduit la voilure sur le nombre de rencontres, de rendez-vous qu'on se faisait par mois. Donc maintenant, on se voit plutôt 1 à 2 fois par semaine plutôt que 3. Et ça me va, c'est redevenu un partenaire. Et moi, j'ai pu cadrer un peu parce que je me disais, si je le vois aussi souvent, je vais moins voir mes autres amants. Et l'ocytocine, donc l'hormone de l'attachement, va faire qu'à force de ne toucher que le même corps plusieurs fois par semaine et à apprendre à le connaître de mieux en mieux, je vais commencer à m'attacher et peut-être je vais tomber amoureuse. Et je ne veux pas tomber amoureuse d'un homme qui n'est pas prêt à entrer dans une relation polyamoureuse, qui n'est pas prêt à quitter sa compagne. Non, souffrir pour souffrir, ça ne m'intéresse pas. Et donc j'ai testé cette relation dont je n'ai pas le nom, mais ça a été agréable. Et puis j'ai retrouvé mes amants au fur et à mesure. Et en fait, là, ça me convient d'avoir des amants qui sont safe au niveau Covid, et avec qui je peux faire des câlins, et avec qui on peut avoir de grandes discussions. Et ça m'apporte tout autant, je pense, de plaisir et de bonne humeur et de partage. Je pense que ça m'apporte tout autant que si j'étais dans une relation de couple. Voilà où j'en suis aujourd'hui.
Ok. Et à un moment tout à l'heure, plus tôt dans l'épisode, tu disais qu'à une époque, en gros, je te disais « je dis oui à tous ceux qui me disent oui à moi ». Est-ce que ça a changé aujourd'hui ?
Mais grave, moi j'étais vraiment dans la partie cet homme que je croise sur une application de rencontre a passé le filtre de toutes les questions que je pose et est d'accord pour me rencontrer moi femme ronde, racisée et musulmane pratiquante à mon petit niveau, hein, mais quand même. Et je me dis, oh, il est déjà bien sympa d'accepter tous ces critères qui sont pas forcément évidents pour tout le monde, donc on y va. Et j'acceptais des rencontres parfois avec des gens qui n'étaient pas respectueux, qui, moi, ne me convenaient pas au niveau de mes critères, comme par exemple, j'ai le droit d'en avoir, hein, c'est pas parce qu'on est ronde ou racisée qu'on n'a pas le droit d'avoir des critères. Et donc, moi, l'un de mes critères, c'est le fait, bien sûr, d'être honnête et de ne pas être un fumeur, fumeur, gros fumeur. En tout cas, fumeur honnête aussi, parce que quand je demande aux gens à combien tu fumes et qu'ils me disent je suis à 5 clopes maximum par jour et qu'on va au rendez-vous et qu'ils sont à 3 clopes en 10 minutes, il se passe quelque chose. Il y a un décalage. Pourquoi? Et on me dit non, mais parce que ça dépend en fait, les 5 c'est une moyenne, des fois c'est plutôt 10 ou 15 ou 20. Ah ouais? Bah alors non, c'est un problème pour moi parce que toi ça fait partie de ton mode de vie en fait, tu allumes une clope très très facilement et moi je supporte pas l'odeur de la clope, donc moi je vais pas te demander de changer, mais est-ce que tu envisages de réduire un petit peu rapport à ta santé? Pas du tout, non. Bah alors voilà, bah écoute, tu es comme tu es, je dois t'accepter comme tu es ou ne pas le faire, et moi quelqu'un qui a 15 clopes par jour, je vais pas y arriver. Donc c'est vrai que j'allais un peu vers n'importe quel homme qui me plaise un peu physiquement quand même, mais qui remplisse un minimum de critères qui est de m'accepter comme je suis. Maintenant, c'est terminé. Je fais un plus gros tri parce qu'il y a une estime de moi qui est revenue. Je sais ce que je vaux. Je sais que je suis une femme avec ses qualités, ses défauts, mais j'ai mon charme. Je suis une femme jolie, intelligente, cultivée. J'ai plein de choses à apporter et j'ai une valeur. Et donc, je n'accepte pas n'importe quelle rencontre. Et par exemple, encore récemment, je suis tombée sur quelqu'un sur les applis qui était un grand fan de l'émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste », au point de regarder tous les jours, de rattraper les replays. On peut avoir des différences culturelles, on peut avoir des différences sociales, il n'y a pas de souci. Moi, je peux aller vers n'importe quelle personne, ce n'est pas par rapport à la profession. Mais si tu trouves que Cyril Hanouna et les sujets qu'il aborde et les positions parfois extrêmes, c'est quand même quelqu'un qui voudrait qu'on revienne sur le droit à l'avortement et la peine de mort. Des lois qui sont passées depuis les années 70-80 en France. Tu es d'accord avec ça? Pas forcément sur tout, mais globalement, ça me fait beaucoup rire et je suis assez d'accord sur le côté il y a trop de communautés, il y a trop de gens qui crient au racisme facilement. Je dis oulala. Donc, en fait, on va pas y arriver parce que on est trop différents dans notre approche sociale des choses. C'est aussi pour ça que je demandais parfois aux gens pour qui ils votaient, parce que ça permet de cibler un petit peu. Donc, c'est terminé, ça, accepter n'importe qui. Oui, ça va prendre plus de temps et je vais faire moins de rencontres, mais je vais faire des rencontres de meilleure qualité.
Est-ce que, globalement, le célibat, c'est une situation qui t'a fait souffrir ?
Je pense que le célibat m'a fait souffrir au tout début. Alors, pas au tout début, juste après la rupture, hein, mais dans la phase où je papillonnais, ça allait. Mais c'est dans la phase où j'ai fait peut-être pas les bonnes rencontres et où je me perdais un petit peu sur les applis à faire des rencontres qui n'étaient pas positives. Là, je me disais, putain, être célibataire, c'est vraiment trop pourri, quoi. On fait des rencontres pourries, on fait des rencontres, on fait pas de rencontres, les gens ils viennent pas. Ou quand je me suis retrouvée avec 14 lapins, pas d'affilée, hein, mais quand même, je me dis, mais quel manque de respect, quel manque d'éducation. De politesse de base, tu ne veux pas aller au rendez-vous, qu'est-ce qui t'empêche de dire à la personne finalement je ne viendrai pas, ou j'ai un empêchement, enfin je me disais mais je vis des moments désagréables, pourquoi? Parce que je suis célibataire, est-ce qu'on est obligé de passer par là? Donc oui, ça a été dur, mais ça m'a permis aussi de travailler après sur moi-même et de rencontrer cette psy grâce justement à un de mes amis, que je remercie encore, et qui a fait ce qu'on appelle une intervention. C'est intervention amicale. C'est quand un ami dit « Bon, allez, stop, maintenant, ça suffit. Maintenant, tu m'écoutes. » En gros, moi, j'étais venue pour faire des câlins, hein, comme on en faisait régulièrement. Et puis, il m'a dit « Écoute, il faut qu'on parle. Tu m'as parlé des dernières rencontres que tu as pu faire, et notamment la dernière où ça a été très, très dur, où la personne t'a vraiment mal parlé, maltraité. Je m'inquiète pour toi. Je pense que tu fais des rencontres vraiment mauvaises, comme si tu voulais te faire du mal. Parce que tu le sais que ces personnes ne sont pas bonnes pour toi. Tout le monde te le dit, il y a des red flags de partout et tes amis te le disent, n'y va pas, ça va être catastrophique, n'y va pas. Et tu y vas quand même. Donc tu te fais souffrir toi-même. Et ça ne te ressemble pas. Et moi, je t'aime en tant qu'ami, je ne veux pas que tu continues à souffrir comme ça. Donc je pense que ce serait intéressant que tu rencontres une psy, ne serait-ce qu'une séance, pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à creuser. Je me suis dit, il a pris le temps de m'expliquer tout ça. Bah c'est que oui, ça doit être vrai, que si je prends un peu de recul, il a raison. J'ai fait des rencontres vraiment qui étaient très dures et où vraiment je suis partie en pleurant, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi je m'inflige ça en fait? Parce qu'il faut absolument que je rencontre quelqu'un. C'est ça, je suis obligée de passer par là, par toutes ces épreuves. Non, il a raison. Et donc, j'ai trouvé cette psy grâce à une autre psy qui s'appelle Mardi Noir, qui est sur Instagram, qui est géniale, qui fait des bouquins et qui a une chaîne YouTube et qui m'a recommandé cette psy-là. Et depuis, on a fait un super travail ensemble et on a pu se dire là récemment que j'avais fait de gros progrès et que, en fait, maintenant, moi, ça va. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de faire des rencontres. Que ma situation de célibataire aujourd'hui me va, que si je rencontre quelqu'un, bah c'est super, et si je rencontre pas, bah c'est pas grave, je vis de très beaux moments avec mes différents partenaires.
Merci pour ton retour. Pour une question peut-être un peu plus globale, sociétale, à ton avis, donc même si toi là actuellement tu souffres pas forcément d'être célibataire, mais tu as quand même le podcast Single Jungle, et donc il y a le mien aussi. Qu'est-ce qui doit changer vis-à-vis des célibataires en France ?
Ce qui doit changer, c'est la perception que les gens ont des célibataires en général. Là, ça commence à évoluer tout doucement avec la crise du Covid. Les gens se sont rendus compte que les célibataires, ça pouvait être dur pour eux parce qu'ils étaient seuls, enfermés, et que parfois ils ne pouvaient pas aller voir leur famille, justement pour ces raisons sanitaires. Donc il y a un peu moins de pression. Donc c'est vrai que si demain on pouvait avoir une société où on traite les célibataires avec respect et qu'on arrête d'être aussi curieux et intrusif avec eux et avec elles, et qu'on se dise en fait, être célibataire, c'est tout aussi valable qu'être en couple ou être dans une famille, que c'est parfois un choix, parfois ça ne l'est pas, mais en tout cas, ça mérite le respect tout autant. Là, ça ira mieux, mais je trouve que ça commence à aller mieux dans certains cercles, en tout cas. Et justement, l'initiative de Victoire Toyon avec Le Cœur sur la Table, qui est la déclinaison des couilles sur la table, mais vraiment dédiée aux relations amoureuses, amicales, à tout ce qui fait battre notre cœur en général. Le fait qu'elle ait cette exposition médiatique et qu'elle pose toutes ces questions-là de voilà pourquoi une relation amoureuse serait plus importante qu'une relation amicale. Est-ce que votre meilleur ami, il ou elle, n'est pas aussi important qu'une relation de couple que vous avez eue? Et voilà, elle pose toutes ces questions-là et ça suscite la réflexion. Et moi, j'espère que ça va permettre, ainsi que nos podcasts à nous, de faire réfléchir les gens et de se dire, mais ouais, au prochain dîner en famille ou la prochaine conversation avec mes amis, ma famille, j'aimerais bien qu'on arrête de me poser ces mêmes questions de alors les amours, alors t'en es où, ça doit pas être facile pour toi les rencontres, comment tu fais avec le masque, je fais pas et c'est pas grave, c'est ok aussi. Par contre, j'aimerais bien aussi qu'on ait des petites astuces, qu'on puisse se les partager les uns les autres. Pour ceux et celles qui ont réussi à dragouiller en ayant un masque, par exemple dans un magasin, moi j'essaie de draguer un libraire avec un masque et je n'ai pas réussi. Si vous avez des techniques, ça m'intéresse grandement parce que je crains que le masque, on le garde encore un moment. Donc, si on pouvait partager nos astuces, ça pourrait être bien.
Alors franchement, pour ça, moi je trouve que déjà, personnellement, j'ai du mal à maintenir le regard. Genre, si je croise quelqu'un qui me plaît, j'ai tendance, tu sais, c'est un réflexe, c'est automatique, c'est je croise son regard, mon regard, il part de l'autre côté en mode vite, il ne faut surtout pas qu'il ait vu que je l'ai, il ne faut pas qu'il lise dans mes yeux qu'il m'a plu. C'est...
trop timide, trop mignonne.
Et donc, en ce moment, je suis en train de travailler sur ça. En l'occurrence, je vais faire de la corde à sauter là tous les matins, j'y vais à vélo. Et en fait, je ne mets pas mon masque sur le vélo parce que, honnêtement, je trouve ça dur.
Et puis, on a le droit, il me semble, hein, sur le vélo, tu as le droit de l'enlever.
Ah ouais, ah bah tant mieux. Ouais. Et quand je fais de la corde à sauter, je suis trop heureuse après, parce que je suis pas assez sérotonine ou je sais pas quoi. Et du coup, je suis sur mon vélo et je suis en train de sourire comme ça, bêtement. Et en fait, je me dis, tiens, je vais en profiter. Je vais garder mon sourire qui, de base, est juste pour moi parce que je suis heureuse. Mais je vais le garder quand je croise les gens et je vais les regarder en même temps. Et, ouais. Et la dernière fois, ça m'est arrivé, il était midi, j'ai croisé 3 gars sur le chemin et j'ai vu que ça marchait. Enfin, en fait, il y en a 2 sur les 3 qui m'ont rendu le sourire, qui, de base, n'était pas vraiment adressé à eux. Mais bon, c'était un peu la supercherie. Mais
c'est chouette, hein.
Mais bon, du coup, avec le masque, pour moi, ce n'est pas le sourire, c'est les yeux. Mais parfois, moi, je suis juste en train, je me marre toute seule, en fait. Parfois, je marche, je suis en train de penser à des trucs, je rigole et je sais que cette espèce de malice se lit dans les yeux. Donc, ouais. Je trouve que déjà, rien que croiser le regard, le maintenir et avoir une forme de malice dans les yeux, je trouve que c'est déjà intéressant si on arrive à le faire.
Il y a ça, et puis après, il y a ceux et celles qui ont les yeux revolvers, entre guillemets, les yeux bleus, les yeux verts. Je pense à un en particulier, Jérémy, que je salue, qui a des yeux bleus, mais de malade. Et donc, la première fois qu'il a enlevé ses lunettes de soleil, oh, tu tombes sur des yeux pareils, tu dis « Ah, mais ouais, mais là, c'est de la triche. Hein. Là, c'est trop facile. » Mais on a chacun et chacune nos atouts, donc effectivement, il faut les utiliser.
Quel conseil aimerais-tu donner aux personnes célibataires qui nous écoutent ?
Alors, je peux peut-être donner des conseils de livres parce que ça peut les intéresser. Je trouve que quand on se documente un peu, on se sent mieux parce que ça nous permet d'avoir un cadre et on se dit, bon, voilà, le célibat, aujourd'hui, c'est ça. Et en fait, moi, je m'inscris là-dedans et c'est OK. Donc, il y a le livre dont je parlais tout à l'heure, donc de Judy Duportail, L'amour sous algorithme, qui est disponible en poche, qui est sinon aux éditions Dilettante, où c'est vraiment toute cette partie application de rencontre, comment ça fonctionne, comment elle l'a vécu vraiment, parce qu'elle parle vraiment d'elle à titre perso, et comment elle en est sortie, et que c'est OK de retourner sur les applis, et des fois on les désinstalle, comme tu disais, on les réinstalle. C'est un classique. On y va par dépit. Si on avait d'autres moyens de rencontre aussi efficaces, on le ferait, mais vu le contexte actuel, voilà, peut-être une parenthèse, soyez tolérant envers vous-même. Ne vous forcez pas à faire des rencontres pendant cette période de confinement, couvre-feu, Covid. C'est très compliqué. Donc, si vous sentez que ça fait trop, c'est trop d'obstacles, c'est OK aussi de ne pas faire de rencontres pendant quelques temps. De vous concentrer sur vous-même, sur vos projets, pourquoi pas des formations, des choses autour du développement personnel. Il y a plein de choses à faire. Ça n'est pas une obligation de se mettre à faire des rencontres quand on nous met en ce moment en plus beaucoup de bâtons dans les roues. Et surtout, pensez à votre santé. Les autres livres que je pourrais recommander, c'est « Nos cœurs sauvages » de France Ortelli, « Enquête sur le vertige du choix amoureux ». C'est vraiment aussi sur ça, il y a tellement de choix sur les applis, tellement de rencontres, qu'il y a ce phénomène de… Bon, c'est très masculin, il y a certaines filles qui le sont aussi, mais c'est quand même très masculin. Il y a pas mal de personnes qui, lorsqu'elles sont sur les applis, se disent « J'ai rencontré quelqu'un de super sympa, ça se passe super bien ». Mais il y en a combien d'autres qui m'attendent sur ces applis? En fait, combien de personnes je suis en train de rater qui sont peut-être, et c'est horrible à dire, plus jolies, plus sexy, plus ceci, plus cela. Mais ça, c'est une logique de jouisseur. Si tu t'arrêtes pas, si tu te poses pas sur cette belle rencontre que tu as fait et si tu ne construis pas avec ces personnes-là, il y aura toujours quelque chose d'autre derrière et un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, à un moment donné, il faut se poser. Mais c'est vrai que les applis ne nous poussent pas à ça parce qu'il y a une multiplicité des possibilités, plein d'applis, plein de rencontres possibles. Donc, ça parle de ça. Et il y a une BD que je suis en train de lire aussi, notamment sur les rencontres un peu pourries, les rencontres, mais il vaut mieux en rire, hein, parce que, et ça s'appelle « Le choix dans les dates », qui est un peu une contre-pétrie, comme « Vous avez le choix dans la date », et c'est de Mathilde Florence, aux éditions Lapin, et elle est aussi sur Instagram, je te donnerai toutes les références pour que tu puisses les mettre dans les notes de bas d'épisode.
Ça marche. Merci beaucoup. As-tu un dernier message à faire passer avant qu'on se quitte ?
Le dernier message, c'est essayer de vous aimer vous d'abord, de construire un petit peu vos projets et essayer pour ne pas souffrir en fait trop du célibat, pour mieux le vivre, il faut commencer par vous et vous êtes la meilleure personne, la plus belle personne que vous allez rencontrer. Donc, pourquoi pas faire un petit travail psy, si vous vous sentez prêt à le faire, ou commencer par des livres ou du coaching. Je pense que c'est la meilleure période pour le faire en ce moment. Et ensuite, les rencontres, ça viendra bien assez tôt. Ça arrive à tout âge. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
Merci Louisa. Je répète que tu es la créatrice du podcast Single Jungle. N'hésitez pas à aller écouter aussi de ce côté-là. Ça fait un peu de la diversité aussi de façon de parler du célibat. Merci d'être venue et à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux discuter avec moi, me faire un retour sur cet épisode ou que tu as envie de témoigner sur le podcast célibataire, tu peux me contacter via le compte Instagram @podcastcélibataire. Tu peux m'écrire en message privé ou commenter directement sous le post qui concerne cet épisode. À bientôt.